Vous écoutez RTL.
18h37 dans RTL Soir, deux autres invités, Marc-Olivier
Fogiel. Absolument, deuxième invité d'RTL Soir. Il se voyait déjà président, mais il n'a pas survécu à cette folle campagne. Mathieu Gohard et Alexandre Lemarié, dans les pas de François Fillon, bonsoir. Merci d'être là tous les deux.
Bonsoir.
Vous êtes tous les deux journalistes politiques au Monde et vous publiez, François Fillon, les coulisses d'une défaite aux éditions L'Archipel. L'incroyable récit donc de l'ascension et de la chute d'un homme. En préambule, vous qui l'avez suivi pendant toute la campagne, à quoi, selon vous, il pense aujourd'hui François Fillon quand il voit Emmanuel Macron, président de la République?
Il pense qu'il aurait pu être à sa place, hein, parce que deux jours avant les premières révélations du Canard enchaîné, François Fillon était à Berlin, il rencontrait Merkel, etc. Et en fait, c'est la chronique d'une campagne qui est un fiasco, qui est un fiasco total.
Mais il la vit toujours, cette élection, comme une élection qu'on lui a volée. Aujourd'hui, il a ces états-là.
Il n'y a pas eu de réaction de François Fillon depuis le second tour. Je pense que le coup est très, très dur à encaisser. Oui, il a toujours eu l'impression qu'il y avait eu une sorte de complot. Il ne s'est jamais senti coupable de tout ce qui est sorti dans la presse. Donc effectivement, il y a un sentiment un peu de paranoïa qui s'est installé. Et sans doute qu'il se dit que cette élection lui a été volée.
Clairement, il n'est pas redescendu.
On ne l'a pas vu depuis le premier tour, mais en tout cas, je ne crois pas qu'il soit redescendu. Non.
Et ce qu'il y a à noter, c'est que contrairement à Lionel Jospin, qui avait annoncé son retrait de la vie politique, François Fillon, lui, le soir du premier tour, lors de son élimination, il n'a pas annoncé son retrait. Il ne sera pas candidat ni aux législatives ni aux sénatoriales, mais en tout cas, il n'exclut pas de revenir en politique à moyen ou à long terme. Pour l'instant, évidemment, les conditions ne sont pas réunies.
Pour l'instant, il revient un militant de cœur, mais il n'exclut pas, et c'est peut-être pour ça qu'on va y venir si on a le temps, mais qu'il garde un peu le magot de la campagne. En tout cas,
ça paraît impossible qu'il revienne quand même à court terme ou moyen terme, parce qu'il est quand même responsable aussi d'un des plus gros fiascos de la droite française depuis sous la Ve République.
Allez, on le raconte, ce fiasco, tragédie grecque qui commence au lendemain de la défaite de Nicolas Sarkozy en 2012. L'ex-collaborateur est devenu président. On peut dire déjà pour commencer qu'il y a une part de vengeance personnelle.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que François Fillon, quand Nicolas Sarkozy perd en 2012, il se lance lui-même pour prendre le pouvoir, pour prendre le parti et s'imposer dans la course à l'Élysée pour 2017. Et il est sûr que François Fillon avait envie de faire payer à Nicolas Sarkozy toutes les rancœurs, tout ce qu'il a pu subir quand il était à Matignon.
Donc il fait tout pour l'affaiblir, en faisant fuiter des infos sur la gestion financière du parti. Les coups bas commencent un peu d'une certaine manière.
Oui, bien sûr. Et puis il faut dire aussi que François Fillon a été marqué par son affrontement face à Jean-François Copé fin 2012. Il avait le sentiment d'avoir été volé. À tort ou à raison, mais en tout cas c'était un sentiment qui était très fort chez lui. Et il est vrai que en 2014, quand il prend la direction, l'intérim de la direction de l'UMP avec Alain Juppé et Jean-Pierre Raffarin, il est déterminé à régler ses comptes.
Quand Sarkozy revient, il demande à ses hommes: je le veux à terre et sans oxygène. C'est chaud chez les Républicains.
Oui, justement, ça fait partie du contexte de l'année 2014 où François Fillon avait notamment fait fuiter des documents qui pouvaient être nuisibles pour les copéistes et les sarkozistes. Et Nicolas Sarkozy, ayant eu vent de ses manœuvres, avait voulu lui-même après régler ses comptes avec François Fillon.
Quand il est candidat officiel, il s'impose pendant la primaire, il veut épurer le parti des sarkozistes. Ça, c'est quand même son ambition.
C'est vrai qu'il y a entre Sarkozy et François Fillon, il y a une rancœur, une blessure d'orgueil, la phrase collaborateur n'est jamais passée. Dans l'entourage de Sarkozy, il y a beaucoup de sarkozistes qui ont méprisé François Fillon. Du coup, ça a duré pendant des années. Et c'est assez amusant de voir pendant la campagne présidentielle que finalement, Sarkozy, jusqu'au dernier jour, a soutenu François Fillon, jusqu'au Trocadéro à peu près. Ouais. Parce que lui, Sarkozy, avait peur que la droite se fracture. Mais oui, entre ces deux hommes, ça a toujours été compliqué, parce qu'il y a le passif du quinquennat 2007-2012, il y a des blessures d'orgueil à tous les niveaux dans leur relation.
Et puis, il ne faut pas non plus oublier que pendant la campagne de la primaire, les sarkozistes n'ont jamais digéré le positionnement de François Fillon, qui était de se présenter en candidat honnête,
évidemment,
en monsieur propre de la politique.
Le général de Gaulle.
Par contraste avec Nicolas Sarkozy, qui lui avait plusieurs affaires dans lesquelles son nom était cité. Et ils n'ont jamais oublié effectivement cette phrase: qui imagine le général de Gaulle mis en examen?
Alors, ça nous amène évidemment aux révélations du Canard, le 24 janvier au soir. Et là, vous racontez un François Fillon, d'abord qui est en interview donc avec une journaliste du Point quand ça sort. En bas, en fait, la galette des rois à son QG. Il est détendu, presque détaché. Il ne se rend pas compte de la tempête qui se prépare?
Non, parce qu'il ne s'est sans doute jamais senti coupable. Alors ça, ça sera la justice de se prononcer plus tard. Même coupable moralement
oui,
par rapport aux faits qui sortent. Il prévient très peu de monde de son entourage. C'est-à-dire que nous, on est face à des sources qui ne sont pas préparé à ce qui se passe. On a quand même un fait majeur qui peut faire déraper toute sa campagne. Lui, effectivement, est en interview. Le lendemain, il va à Bordeaux, dans un déplacement. Il parle de la misogynie du canard enchaîné. Rien n'est préparé. Les éléments de langage ne sont pas préparés.
Alors que ça fait 4 jours qu'il est au courant. Lui, oui, Anne Méo et Patrick Stefanini, donc il le sait. D'ailleurs, donc, les Fillonistes, comme Gérard Larcher, lui en veulent parce qu'il ne il les a pas mis dans la boucle.
Exactement. Ses fidèles n'étaient absolument pas au courant du fait qu'il avait employé sa famille. Et c'est vrai qu'il lui en voulait. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que François Fillon, lui, au moment où l'affaire sort, il n'a pas conscience qu'il y a une rupture d'image profonde le concernant, parce que comme on l'a dit, il a fait campagne sur l'honnêteté pendant une trentaine d'années, toute sa carrière il a donné une image de probité, et c'est cette image là qui est totalement cassée avec les révélations du canard.
Donc, il met 24 heures sans doute à se rendre compte, c'est-à-dire quand il rentre de Bordeaux, il arrive devant son QG, il croise Bruno Retailleau qui est le coordinateur de sa campagne, et il lui dit j'ai l'impression que tout se dérobe. C'est-à-dire là il a mis 24 heures quand il a vu le carnaval de son premier déplacement, des médias partout qui lui courent après, que là, il se passe quelque chose de très grave et que ça peut faire basculer toute la campagne.
Mais il lui faut 24 heures. D'ailleurs, il fait le parallèle déjà, vous racontez, avec Bérégovoy, c'est ce qu'il dit à Retailleau. Et il y a évidemment le 20h de TF1, là où il parle d'ailleurs de ses enfants, enfants qu'il présentait comme avocats alors qu'ils étaient en fait étudiants. Là encore une fois, et qu'il dit que s'il est mis en examen, évidemment, il se retirerait. Là encore, il décide seul, tout ça dans le secret.
Il y a une réunion le jeudi après-midi, donc on est 2 jours après l'article du canard enchaîné. Ça se passe assez mal parce qu'en fait, ils arrivent pas à se mettre d'accord entre les avocats, entre Méo, entre Retailleau. Et en fait, Fillon, comme souvent, part seul aux 20h, personne ne sait vraiment ce qu'il va dire. Et cette phrase, si je suis mis en examen, je me retire, elle est beaucoup trop improvisée. Il est sans doute mal conseillé aussi par ses avocats qui lui disent ça va aller très vite, tu seras blanchi assez vite. Mmh. Donc il engage toute sa campagne électorale sur une petite phrase, sans coordination, sans concertation. Et ça joue un mois plus tard avec le délitement de cette campagne.
Alors, délitement total de la campagne. À un moment donné, il pense l'avoir sauvé, sa campagne. Et puis, il y a la mise en examen ce 1er mars, où il devait aller au Salon d'agriculture. Il y a finalement donc, cette conférence de presse. Et là, tout son entourage lui dit qu'il faut arrêter. Sarkozy lui dit à toi de décider en ton âme et conscience. Larcher lui dit tu ne peux pas continuer. Stefanini, il faut arrêter, c'est ingérable. On essaye de le convaincre, mais lui, là, il s'entête et il s'enferme dans un discours. Il franchit un cap. Lui, le candidat responsable, il devient presque populiste d'une certaine manière.
Oui, tout à fait. Ce qui a été frappant dans cette campagne, c'est qu'on a retrouvé un François Fillon qu'on ne connaissait pas. Ça a été une campagne quasiment à contre-emploi pour lui, parce qu'il avait son image d'ancien Premier ministre, garant du respect des institutions, toujours avec un discours pondéré. Et là, on l'a retrouvé avec des accents populistes, où il s'est mis à attaquer les médias, attaquer les juges. Et c'est vrai que c'était totalement à contre-emploi.
Tout est dans le livre. Le fameux plan B, il existait ou pas? Parce qu'au moment du Trocadéro, il a dit lui-même, on aurait pu le débrancher. Il disait un peu dans le week-end qui a précédé le Trocadéro. Finalement, ça n'a pas été fait. C'est quoi le problème du plan B?
Ah, mais c'est sûr que le plan B a existé. Je veux dire, les jupéistes, Alain Juppé se préparait. Entre le 1er mars, jour du Salon d'agriculture, et le 5 mars, le rassemblement du Trocadéro, il y a des coups de téléphone dans tous les sens au sein de la droite française pour savoir comment remplacer François Fillon. Le plan B, il existe. Il est prêt. Le seul problème, c'est qu'il faut que François Fillon rende les clés de son bunker, sorte du bunker et dise « je te confie la campagne électorale ». Parce qu'on ne peut pas, quand il y a eu 4 millions d'électeurs à une primaire, on ne peut pas remplacer quelqu'un sans son accord. C'est très compliqué électoralement. Et c'est là que Sarkozy a un rôle très important et en même temps, il n'a pas réussi à aller au bout. Le vendredi, je pense qu'à ce moment-là, Sarkozy lâche François Fillon et lui dit « si j'étais à ta place, j'abandonnerais ». Fillon lui dit « laisse-moi 2 jours jusqu'au Trocadéro ». Sarkozy pense que Fillon va abandonner. Et il n'abandonne pas, et ensuite il se maintient contre toute sa famille politique.
Pour vous, et pour conclure, vous pensez qu'on a commencé comme ça, on termine comme ça, que son avenir est derrière lui?
Pour moi, je pense que c'est terminé à moyen terme et sans doute à long terme.
En politique, on a tendance à dire qu'on n'est jamais mort, mais c'est vrai que là, ce sera quand même très compliqué pour lui de revenir. Le traumatisme est quand même très profond au sein de la droite, donc je pense que les gens auront du mal à oublier.
Toute cette folle campagne, les secrets racontés dans votre livre, les coulisses d'une défaite, donc à l'archipel. Merci Mathieu Goer, merci Alexandre Lemarié, merci à vous.